11h, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde.
C'est bien Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et avec nous aujourd'hui, Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, et qui vient de publier « La malédiction de la droite ». 60 ans de rendez-vous manqués en sous-titre chez l'excellent éditeur d'histoire et de politique, Perrin. Pour commencer, Macron, encore Macron, toujours Macron, mais Macron version Cantelou.
Allez, on parle d'Emmanuel Macron maintenant, qui reçoit ce soir 1500 maires de France à l'Élysée. Bah tiens, si on appelait tout de suite l'Élysée pour voir comment on se prépare là. Bonjour Monsieur le Président.
Brigitte, s'il te plaît, tu peux préparer rapidement des chips et puis des olives là pour les ploucs sur ce soir.
Plus gentil. On vous entend Emmanuel Macron là. Hein, vous êtes à l'antenne déjà. C'est Europe 1.
Oui, mais moi aussi. Moi aussi, je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Vive les maires.
Ah ben voilà, c'est vrai, cette fois-ci, vous étiez en reconquête auprès des maires, hein, contrairement à l'an dernier où vous aviez boudé le congrès.
C'est vrai, vous savez, depuis les gilets jaunes, je me suis rendu compte à quel point les maires étaient utiles. J'ai tenu sincèrement à leur dire, c'est vous le dernier maillon de l'État, je leur ai dit, c'est vous qui êtes au plus proche de la colère des Français. Je le dis aux gilets jaunes, ne tapez pas sur le gouvernement. Tapez sur les maires. Les maires, c'est un peu comme les tirailleurs sénégalais, toujours en première ligne, prêts à se sacrifier.
Oh bah vous parlez d'un compliment.
Ce sont les soldats. Oui, je suis enflammé. Les soldats de la démocratie. Ce sont les troufions de la République.
Oh là là.
Valeureux, engagés. Vive les maires. On leur crache dessus et ils ne se plaignent jamais. On leur rit dessus et ils vous servent avec le sourire. Vous pouvez leur vomir dessus toute votre haine. Ils vous diront merci de leur faire confiance.
Oh là là,
heureusement qu'ils sont là. Ces blaireaux.
Oh là là.
C'était Cantelou, Nicolas, mercredi sur Europe 1, qui, quand il y va aussi fort que ça, il est à la limite de glisser de l'imitation de Sarkozy à l'imitation de Philippe de Villiers, je trouve. Il y a quelque chose. Bon, ceci mis à part, cet épisode, cette rencontre, cette double rencontre avec les maires à l'Association des maires de France, puis reçue à l'Élysée, c'est une correction de tir, Catherine Ney ?
En tous les cas, ça voulait l'être, parce que l'année dernière, il avait beaucoup choqué les maires. Et puis surtout, il y a le péché originel qui n'est pas pardonné, c'est la suppression de la taxe d'habitation, même si l'État dit qu'il va compenser à un euro près, ils se demandent si ça sera pérenne et donc s'ils ne vont pas y perdre beaucoup. Et donc, il y a une sorte d'angoisse chez les maires. Donc, ils attendaient un discours. Évidemment, le président est venu pour leur dire qu'il les aimait. D'ailleurs, c'est ce qui avait été écrit par ses collaborateurs. Et puis, très vite, comme il fait habituellement, il est sorti d'un discours et il s'est mis à parler. Et c'est vrai qu'on ne saisissait pas toujours le fil du discours. C'est-à-dire que on croyait qu'il allait terminer au bout de 20 minutes, et bien non, il remettait les gaz, il repartait autre chose, il allait atterrir, et bien non, ça recommençait. Et donc, beaucoup sont partis, et ils trouvaient qu'il y avait de l'élan, il y avait de sûrement une gentillesse qu'il voulait, mais ça manquait de choses, d'annonces fortes pour les maires et pour les aider dans leurs soucis quotidiens qui sont grands. Voilà.
Donc, Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut dire que quand il y a des annonces précises, mais pas assez de tendresse, de bienveillance et de gentillesse, on dit c'est très techno. Et quand on fait dans l'empathie et la bienveillance, on dit oui, mais il n'y a rien de précis.
Oh, ça, c'est peut-être effectivement un travers de commentaires que l'on a tous. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce discours, un peu comme Catherine, c'est son côté ambivalent. C'est-à-dire qu'il y avait une intention claire qui était de dire au maire qu'il les aimait. Hein, il a dit « J'ai tant appris de vous, je me nourris de votre connaissance du terrain ». Ça, c'était des mots qui étaient écrits dans son discours. Et puis, par moments, il s'émancipait de son texte écrit. Et là, on avait le sentiment que le naturel reprenait le dessus, à savoir quand même cette forme d'agacement à l'égard des reproches qu'on peut lui faire. L'exemple le plus flagrant, c'est sur la taxe d'habitation. Catherine l'a dit, c'est la pomme de discorde qui n'est toujours pas passée. Parce que, en clair, la taxe d'habitation, c'est un impôt qui est prélevé par les mairies. L'État le supprime. Compense, certes, à l'euro près, mais comme a dit François Baroin, vous supprimez un impôt qui ne vous appartient pas. Donc, c'est toujours pas passé, et il continue à en faire le reproche. Et là, Emmanuel Macron, il argumente, vous serez compensé, mais surtout, il y a eu un moment, il dit, bah, écoutez, hein, si vous rencontrez un seul de vos électeurs qui se plaignent parce qu'il n'y a plus de taxe d'habitation, envoyez-le-moi. c'est une manière de leur dire, écoutez, hein, vous êtes bien gentils, mais moi, je m'occupe vraiment des gens. Vous défendez votre petit bout de gras. Il y avait cette forme d'exaspération qui reprenait le dessus.
Mais c'est pas complètement faux comme argument.
Je ne dis pas qu'il a tort. Ouais. Je dis qu'il y a deux choses contradictoires dans ce qu'il dit. Il y a l'opération calinothérapie d'un côté, et de l'autre côté, une forme d'exaspération qui n'est toujours pas passée de l'autre.
Oui, et puis surtout de leur dire, aidez-moi, j'ai besoin de vous, alors qu'ils ne leur apportaient rien. Donc c'était un peu, donne-moi ta montre que je te donne l'heure. C'était ça, c'était un peu unilatéral quoi, comme geste.
Vous ne connaissez pas l'adage, donne-moi ta montre que je te donne l'heure. Vous en avez beaucoup en réserve, Catherine, c'est formidable pour nous. Très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un nouveau Macron qui se dessine là, que moi, dans mon vocabulaire que vous allez sûrement trouver, peut-être trouver professoral et abstrait, j'appellerais le présidentialisme municipal. C'est-à-dire qu'on garde quand même la structure d'autorité du président tous azimuts, du président qui va partout, du président qui parle tout le temps, du président qui tranche sur tous les dossiers, ça c'est le présidentialisme, mais municipal, parce que maintenant, à la différence de la première phase du quinquennat, il se rend compte qu'il faut passer par les élus, il se compare même au maire, il dit « moi je suis le maire de la commune de France mmh. » et que c'est quand même une inflexion sérieuse, ça, dans la manière de... où ça veut l'être, dans la manière de gouverner.
Voilà. Dans les mots, incontestablement. Je pense que cette formule... Je suis le maire de la commune France. Elle a été réfléchie, elle a été écrite à dessein pour qu'elle frappe. Et de fait, on la retient. Moi, je pense quand même que c'est cette dimension verticale de Macron qui demeure. Vous savez, en politique, c'est vrai en politique. Je pense que c'est vrai dans tous les domaines. On ne change jamais. On a son tempérament, on a son style, on a son caractère, on a sa manière de voir les choses. Alors, on peut tirer des leçons de l'expérience, on peut être contraint à un certain nombre d'accommodements quand on voit que telle ou telle méthode ne passe pas, mais le fond, il est là. Et je pense que Macron, comme Sarkozy avant lui, et finalement, ce n'est pas une question de maire ou pas de maire, parce que Sarkozy avait été maire de Neuilly, donc il savait ce que c'était que gérer une commune, mais lui aussi avait cette dimension, ce sentiment que l'action, elle se fait en direct. Et comme c'est vrai qu'on est... ça, c'est à la fois l'effet de la Ve République, aussi l'effet de la société médiatique, il y a les Français et le président. Et on a beau essayer de valoriser ponctuellement tel ou tel intermédiaire, on n'arrive pas à sortir de ce face-à-face. Et en plus, ça correspond assez bien à ce que pense au fond de lui Macron.
Oui, mais surtout quand il dit « j'ai beaucoup appris des maires ». Et c'est vrai qu'il a fait tous ces débats à travers la France, mais a beaucoup appris des maires. Mais vous avez remarqué que lui seul parlait. Quelquefois, un maire levait la doigt pour lui poser une question, il répondait brièvement pour leur montrer qu'il connaissait encore mieux les dossiers qu'eux-mêmes. Ce n'était pas un dialogue, c'était un long monologue et un monologue, mais vraiment, mais il faut dire...
Il a fait allusion au grand débat.
C'est ça. Donc, mais un monologue où il pouvait parler 5 heures, 6 heures durant, sans boire une goutte d'eau, sans transpirer. Enfin, on se disait, c'est un athlète de la politique pour faire ça.
Pas tout le temps sur ce mode-là quand même. Hein, parce que
mais là, moi, quand il dit « j'ai beaucoup appris des maires », là, quand il se déplaçait auprès des maires dans les régions, et tous venaient, il y avait 500, 600 maires, eux, ils écoutaient l'oracle d'où tombait, les sentences, voilà.
D'accord. Mais hier, quand je dis si je croyais que c'était foutu, sincèrement, je ne serais pas venu, je me serais planqué. C'est au terme ou pendant une heure et demie de confrontation avec les licenciés, les sans-emploi de Whirlpool. On y revient dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Ils reçoivent tous les deux ce matin Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, auteur de La malédiction de la droite aux éditions Perrin.
Donc Emmanuel Macron n'a pas seulement été à la rencontre des maires, il a aussi été à la rencontre des travailleurs de Whirlpool, où on se souvient, pendant la campagne présidentielle, pour ne pas laisser à Marine Le Pen le monopole d'être allé sur le terrain dans un lieu difficile des Hauts-de-France, il y était allé et il avait pris l'engagement de s'occuper de trouver repreneur. Pour le dire vite, le repreneur a été trouvé, mais le repreneur a raté ou a escroqué, ça c'est la justice qui le dira. Et donc maintenant, il y a encore, je crois, à peu près 250 employés de Whirlpool qui sont sur le carreau. Il est quand même allé et se confronter à eux, et se confronter à François Ruffin. Alors bon, François Ruffin, on peut dire qu'il lui rend service, on peut dire que s'il lui rend service, il gêne Mélenchon, il peut dire que gêner la principale force politique qui reste à sa gauche, c'est toujours ça de pris au passage, même si ce n'était pas l'objectif premier. Ça, c'est pour l'explication médiapolitique. Mais par ailleurs, pour un président de la République comme lui, et l'image que vous avez d'un président de la République, Catherine, vous qui les avez connus de près, nos principaux présidents depuis quelques années, est-ce que c'est une erreur parce que c'est trop trivial, c'est trop, c'est pas assez monarque républicain? Ou est-ce que c'est courageux et bien vu?
C'est courageux, mais il n'amène pas la mode au pays. Avant lui, Nicolas Sarkozy, lui aussi, était allé sur le terrain, dans les hauts fourneaux de Mittal, pour promettre des choses. Et François Hollande, pareil, qui montait sur des camions, qui promettait des choses. Et d'ailleurs, certaines ont été tenues.
Si vous permettez, Catherine, la différence, c'est que là, ils se confrontent directement à leur parole pendant une heure et demie,
mais parce que
en quasi face à
face. Mais parce que c'est ce qu'il aime faire. Et il est descendu dans l'arène, il est resté une heure et demie. Et le talent, quand même, il faut lui reconnaître. D'abord, c'est courageux. Mais le talent, c'est que au début, c'était la colère, et qu'au bout d'une heure et demie, les gens étaient apaisés, et même quelqu'un lui a dit on se revoit dans un an, et j'espère qu'on boira le champagne. Et donc, le morceau choisi de cette rencontre, ça a été son face-à-face avec le Ruffin, le France Insoumise, mais ce sont un peu localement les deux rockstars, Damien. Vous vous rendez compte, ils ont été tous les deux chez les jésuites à la Providence, et on ne peut pas dire qu'ils sont amis, et chacun est dans un rôle très spécifique, et dans le fond, ils se servaient l'un l'autre.
Hein. Absolument. Alors moi, je demande aux personnes au cabinet du président de la République de permanence ce samedi matin, d'appeler rapidement Emmanuel Macron pour lui dire d'écouter Mediapolis, et l'hommage que Catherine Ney vient de rendre à son talent. On va voir s'il en est de même avec Guillaume Tabar du Figaro, parce qu'alors là, ce serait magnum de champagne.
Ah, d'accord, on va tenter le magnum alors. Non, mais c'est évident, je pense que la dimension de courage personnel de Macron dans ce genre d'exercice est évident, et c'est un exercice qu'il aime bien. Et on n'est jamais aussi bon que quand on fait quelque chose que l'on aime bien. Il aime se confronter, il aime être défié, hein, et il aime montrer qu'il va au contact, y compris physique, en agrippant de ses mains les bras de ceux à qui il parle. L'exercice est délicat et subtil parce que précisément, Macron, dans sa campagne présidentielle, avait en tête le souvenir de François Hollande sur son camion à Fleuranges, disant voilà, on ne vous laissera jamais tomber, on va trouver un repreneur, les hauts fourneaux vont continuer. Bon. Et à Whirlpool, jamais Macron n'a dit je vais vous trouver un repreneur qui va poursuivre votre activité en garantissant tous les emplois. Parce qu'il a dit ça, c'est pas vrai, quelqu'un qui vous dit ça, il vous ment. Bon. Et il avait dit mais voilà, je m'engage à accompagner des solutions, à trouver différentes solutions individualisées, etc. C'est ce qu'il fait, et il y a aussi une part de crédit de la parole politique qui se joue, parce que c'est vrai que l'homme politique qui dit aujourd'hui je vous garantis qu'une usine va tourner, ça, c'est personne ne peut le croire. Il prend quand même un risque, parce que c'est vrai qu'il sera quand même jugé dans un an sur les solutions diverses qu'auront être... Et on sait bien que on a toujours tendance à voir la bouteille à moitié vide et pas à moitié pleine, et que sur, je ne sais pas quel chiffre vous citiez, sur les 250 salariés, si l'année prochaine il y en a 200 qui ont retrouvé un emploi, on va dire, il y en a 50 sur le carreau, la promesse n'est pas tenue.
Celui qui dira que 200 sur 250, ça ne fait pas la moitié, c'est que ça fait moins que la moitié, ou ça fait que la moitié, c'est qu'il est nul en mathématiques quand même. Écoutez, on se retrouvera dans un an, du moins j'espère, puisque vous dites que quand on aime quelque chose, on est très bon. Catherine et moi, on adore Mediapolis, on va essayer d'être bon. Maintenant, autre problème, autre question, mais d'une certaine manière connectée. Il y a eu samedi dernier, après cette émission, le nouveau rendez-vous des Gilets jaunes, avec un contraste assez saisissant entre ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'est passé dans le reste de la France. Alors, sur ce qui s'est passé à Paris, écoutez celui qu'on n'avait pas entendu samedi dernier, parce qu'il était miraculeusement resté silencieux, laissant le préfet en première ligne, Christophe Castaner.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre, des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies. On n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants. On a vu des barbares, mais ce sont aussi des imbéciles. Vous savez, on peut être à la fois imbécile, brut et voyou. Hélas, certains n'ont pas le monopole.
Il adore ça, Castaner, multiplier les adjectifs d'injures. Bon, on ne va pas s'attarder trop là-dessus. Ce qui pose peut-être parfois un peu problème pour comprendre où on en est avec les Gilets jaunes, c'est que vous avez une polarisation médiatique extrêmement forte sur les violences et autres incidents à Paris, notamment parce que ça produisait de l'image, et puis même de l'image de différentes sortes. C'est-à-dire, vous avez eu les images avec les flammes sur la place d'Italie et tout, c'est bien, et puis enfin, c'est bien. Oui, c'est bon coco, je veux dire, en termes d'image. Et puis après, le soir, c'est encore mieux, parce que c'est dans la pénombre, dans les halles, avec des petits groupes qui se poursuivent. Vous avez l'impression d'être dans une nouvelle série sur Netflix. Mais du coup, on n'a pas, ou très peu, rendu compte de tout ce qui s'est passé à travers la France. Certes, pas très nombreux, mais quand même quelques dizaines de milliers de gilets jaunes, eux, très pacifiques. Alors, ça fausse le regard, quand même, Guillaume Tabar.
Oui, il y a un jeu dans lequel tout le monde trouve un peu son compte. Bon, jeu médiatique évident, vous avez raison, c'est des images spectaculaires, ça fait de l'audience, ça tourne en boucle, bon. Ça crée du débat politique. Hein. Alors, si on voulait être un peu cynique, mais vous savez, en politique, il y a souvent aussi une part de cynisme, ça permet au gouvernement de s'opposer à l'image des casseurs, des voyous, des imbéciles, pour reprendre l'accumulation de Christophe Castaner. Pour le dire de manière très, très brève et très brutale, ça permet au gouvernement de se poser en partie de l'ordre. Et dans la séquence Gilets jaunes d'il y a un an, ce qui a, entre guillemets, sauvé Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu une réaction d'indignation à l'égard de la violence, peut-être une réaction aussi un peu de peur, qui a conduit une partie de l'électorat le plus en attente d'autorité, pour être clair, un électorat habituellement de droite, qui s'est mis à soutenir Emmanuel Macron. On en a vu la traduction aux européennes. Et jouer le parti de l'ordre face aux casseurs, pour un gouvernement, c'est toujours une carte utile.
Donc ce n'est pas la malédiction des casseurs, c'est la bénédiction des casseurs qui accroît la malédiction de la droite et la malédiction de la droite. On y vient dans quelques minutes.
Ah bon, d'accord. Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec aussi votre invité, le rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, Guillaume Tabar.
Au Figaro. Alors, juste avant que Catherine Ney nous livre son analyse sur l'évolution des Gilets jaunes, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. J'adore, quand c'est possible, comparer les unes des quotidiens du matin. Et alors, le quotidien Le Parisien, ce matin, c'est « Violence faite aux femmes ». Comment en finir? Puisque vous savez que c'est une journée qui est consacrée manifestation cet après-midi à 14h de la place de l'Opéra à Nation, si j'ai bonne mémoire. Libération, violence conjugale, tous pour nous toutes. Et le Figaro, faut-il avoir peur de la viande de laboratoire? Ça, c'est rigolo quand même, non? Guillaume Tabar, c'est vous qui avez décidé sur la viande.
Sur les violences faites aux femmes, vous savez qu'il y a la manifestation d'aujourd'hui, mais il y a surtout aussi des annonces
lundi, je crois,
que doit faire lundi le gouvernement, notamment la ministre Marlène Schiappa, et peut-être que en lisant le Figaro, vous en apprendrez beaucoup sur ce sujet.
D'accord. Bon, blague à part, mais c'était pas une blague, c'était une analyse média.
Oui, ça a vous lisez les journaux, aussi, oui, quoi, voilà, exactement. Ouais. Oui.
Et vous aussi, moi je lis les journaux, merci de dire que je travaille un peu, et vous travaillez beaucoup. Et donc, sur les gilets jaunes...
Sans transition, alors oui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en consultant des sociologues comme Jean Viard ou l'agence de Denso Consulting, ils disent que il y a quand même quelque chose de nouveau. Bon, c'est vrai que la France d'en haut, elle n'aime pas les gilets jaunes parce qu'elle apporte des violences. Mais ce qui s'est passé samedi, il y a un regain en province peut-être envers les gilets jaunes, justement parce qu'il n'y a pas eu de casseurs, parce que c'était convivial et qu'ils attendent quelque chose. Mais tous disent qu'on n'est pas dans une phase révolutionnaire. On pouvait penser il y a un an quand franchement les gilets jaunes s'approchaient de l'Élysée en disant « dégage », on a eu peur d'une vraie révolution. Là, maintenant, il y a une colère qui est toujours là. Je ne dirais pas même peut-être qu'il y a encore une haine de la France d'en bas envers Macron, tant qu'il n'y a pas de résultat. Mais il y a une envie que ça change. Et en tous les cas, on ne dit plus sur les ronds-points « dégage, va-t'en hein ». Alors, est-ce que ça veut dire que Macron, tout en étant scruté, en attend de lui, il a soulevé des espoirs et il faut que, dans la deuxième partie du quinquennat, eh bien, vraiment, les actes suivent les paroles, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un climat qui a un peu changé. Enfin, d'après ce qu'on me dit, moi je ne le constate pas. C'est ce que
Oui. Vous êtes vraiment très précieuse, Catherine, je tiens à vous le dire. Je vous remercie beaucoup. J'en viens à la droite et à la malédiction de la droite. Dans l'actualité, on va en parler dans un instant, il y a trois personnalités qui émergent plus que les autres et on va s'interroger sur pourquoi et la façon de les départager. Mais avant, quelque chose m'intrigue dans votre titre, Guillaume Tabar. Parce que finalement, cette permanence de la division à droite, dont vous racontez formidablement et très précisément et très exactement, en plus, je veux dire, l'histoire, quelle est sa cause principale? Alors, il y a une explication principale idéologique, en disant, qui remonterait d'ailleurs à René Raymond, et après, qu'il y a, il y a des désaccords idéologiques profonds, il y avait une vraie. Il y avait vraiment, en tout cas, susceptible de gouverner le pays, de droite du temps du général de Gaulle, la droite gaulliste, bonapartiste, jacobine, colbertiste, etc., tout ce que vous voulez, indépendantiste vis-à-vis des grandes puissances. Et puis, il y avait la droite libérale, modérée, girondine, européiste, et donc par-delà les personnes, il y avait une vraie division idéologique. Puis vous pourriez faire pareil, et je ne le fais pas pour ne pas perdre de temps, avec Juppé-Fillon. Et puis, il y a une autre explication qui est, ce sont des rivalités de personnes, parce que chacun va être calife à la place du calife, et que c'est ça le ressort principal. Et puis, on a l'impression qu'il y en a une troisième sourde, comme ça, avec Guillaume Tabar, sauf qu'il ne va pas jusqu'au bout de son titre, qui serait une sorte de malédiction de la Providence. Alors, quelle est sa réponse à lui, à cette question centrale, quand on a fini son livre, La malédiction, pourquoi Guillaume Tabar, vous nous répondez dans quelques instants.
Le rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, Guillaume Tabar, et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, ce samedi dans Mediapolis.
Et notre invité, Guillaume Tabar, doit nous dire d'où vient cette malédiction de la droite.
Vous avez vous-même pointé deux explications, l'une idéologique sur la différence des traditions à droite, donc je ne reprends pas tout ce que vous avez dit. Querelle personnelle aussi qui... Vous allez dire, partout il y a des querelles personnelles en politique, c'est vrai, mais je pense qu'elles sont plus fortes à droite dans la mesure où il y a une tradition, si on croit un peu au clivage gauche-droite, je pense que la gauche a toujours aimé le débat des idées et le collectif a souvent primé, avec ce que ça peut avoir aussi comme conséquence de dogmatisme par moment, là où la droite est plus individualiste dans son tempérament, ce qui là aussi lui donne plus de pragmatisme, ce qui peut être une bonne chose, mais qui conduit à aviver finalement ces guerres personnelles. Et j'ajouterais peut-être une troisième explication qui, je ne sais pas si elle résulte des deux autres, qui est finalement une explication psychologique. Je pense que le grand drame de la droite, c'est qu'elle ne s'aime pas. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail sur
ça vaut pas pour Giscard, hein.
Non mais alors, je ne parle pas à titre personnel, mais je parle de ce qu'elle est. Si on prend sur le temps un peu long, la gauche a toujours été fière de ses valeurs, y compris lorsqu'elle était minoritaire culturellement, était fière de porter des débats minoritaires et en disant bah, on va les imposer. La droite a toujours eu un peu honte de
alors,
porter un ensemble
de
combats.
Ouais.
Non, mais là, ce que vous dites très bien dans ce livre, ouais, c'est que la gauche a préempté d'emblée le camp du bien parce que vraiment héritière de la Révolution, parce que c'est un bloc, comme si tout s'était passé de manière gentille entre de bons camarades et en faisant de la monarchie suivante l'absolutisme absolu, enfin je veux dire l'absolutisme qu'il fallait vraiment. Donc la droite, elle a presque honte d'être à droite. Parce que la gauche la rejette toujours dans le camp du mal. Et donc ça, c'est un complexe profond. Et d'ailleurs, dès qu'un président est élu de droite, il commence par faire quelques réformes. Et puis si ça va mal, aussitôt, il fait du social pour faire encore plus que la gauche. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu durablement une vraie expérience de droite durable qui montre ce que la droite sait faire. Quand tu es pour redresser le pays, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Et en plus, quand elle arrive au pouvoir, il y a toujours une crise économique. Hein, ce n'est pas comme Rocard ou Jospin qui ont pu profiter d'une reprise. Et alors que la droite a toujours pâti, il y a toujours eu des crises pétrolières, des crises...
Donc la Providence est à gauche.
La Providence est à gauche, oui.
C'est vrai que Giscard s'est pris de plein fouet le choc pétrolier, que Chirac, au moment où il fait les privatisations en 86, il se prend un choc boursier colossal. Sarkozy s'est prise la crise de 2008. Prime.
Mais De Gaulle et Pompidou, ils se sont pris les belles années, donc c'est plus compliqué que ça, votre histoire.
Il y a ça aussi, mais vous citez... bien sûr, chez De Gaulle, il y avait cette fierté, mais précisément De Gaulle, qui intellectuellement est un pur produit de la droite, même de la droite, même maurassienne au départ.
Il récuse totalement le fait d'être amené à droite.
De Gaulle n'a jamais assumé, et même il n'aimait pas la droite. Alors si, pour des raisons liées à la guerre, là encore, mais...
Seulement il ne l'aimait pas, ça c'est la partie personnelle, mais profondément, le cœur de l'idéologie gaulliste ne peut pas se reconnaître dans la division droite-gauche, puisque c'est par nature... Le rassemblement, la France, c'est une conception unanimiste de la démocratie.
Avec cette part d'ambiguïté, c'est que le gaullisme exalte le rassemblement, mais l'élection du président au suffrage universel, qui est une intuition de De Gaulle, l'une des plus fortes, conduit précisément à la bipolarisation. Et même dès 65, De Gaulle-Mitterrand, c'est quand même, en termes électoraux, la droite contre la gauche.
Ah non, mais c'est absolument génial. C'est De Gaulle qui a fabriqué le système, qui a mis par terre son idéologie,
oui, de ce point de vue. Manière,
ça,
oui.
Ça depuis très longtemps. Alors, les trois prétendants aujourd'hui qui émergent, on est d'accord qu'il y en a trois, qui s'appellent Baroin, Bertrand, Pécresse, par ordre alphabétique.
Aujourd'hui, oui.
Oui. Alors d'abord, est-ce que vous avez un élément d'explication sur comment ça se fabrique? Pourquoi ces trois-là? Pourquoi pas d'autres?
Parce
qu'ils l'ont voulu et qu'ils font ce qu'il faut pour.
Parce que conjoncturellement, un certain nombre ont été victimes d'accidents. Si on prend dans la jeune génération.
Il y a tous ceux qui ont été out.
Copé a été balayé après les européennes d'il y a 5 ans. Wauquiez a été balayé, mais provisoirement peut-être. Je veux dire qu'on sait, la vie politique, elle est longue et on se remet souvent d'échecs. Mais aujourd'hui, Wauquiez a été contraint de se mettre en retrait. Les plus anciens, Juppé maintenant est conseiller constitutionnel, Fillon est sorti de la politique.
D'accord, bon. D'accord. Mais alors pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas Jacob? Pourquoi pas Geoffroy Didier? Alors, pourquoi pas Muselier? Pourquoi pas, je sais pas moi. Bon,
parce que malgré tout, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et François Baroin, on pourrait peut-être ajouter Bruno Retailleau, peut-être pas exactement le même plan, mais je pense qu'il ne faut pas l'exclure non plus de la liste. Ceux-là ont déjà été ministres. Et avec des expériences un peu sérieuses, Bertrand au travail, Baroin au budget, Pécresse aux universités, etc. Une expérience locale sérieuse, patron de région, c'est quand même pas rien, donc il existe dans le débat. Et puis une ambition, c'est-à-dire que quand on veut être présidentiable, il faut d'abord le vouloir. Et ces trois-là, on le veulent. Y compris, je pense, François Baroin, dont on dit beaucoup qu'il...
D'accord. Attendez, sur l'envie, là, vous ne pouvez pas parler, parce que l'experte mondiale de l'envie chez les politiques, c'est Catherine Ney, c'est pas vous.
Non, mais pour l'instant, là, les trois que vous venez de dire, c'est quand même les plus belles fraises sur le panier de la droite, en raison de leurs compétences, de leurs talents divers, et l'idée que peut-être ils en ont envie, un peu. Alors, sur l'échelle de Richter, je ne sais pas mesurer le degré, mais tous un peu.
Mais alors, j'ai quand même encore une question, parce que la différence avec les fraises, c'est que si j'achète le panier, rentrer chez moi, je peux manger les trois plus belles fraises. Et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, je le ferai. Oui. En revanche, dans l'élection présidentielle, à l'arrivée, il n'y a qu'une fraise.
Oui.
Alors, là, vous allez me dire laquelle, mais comme ce n'est pas facile, vous allez m'expliquer de façon intelligente pourquoi vous ne pouvez pas me répondre, probablement, dans quelques instants.
Donc là, je ne vous réponds pas.
Non, dans quelques instants.
D'accord.
Comme chaque samedi, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Aujourd'hui, ils sont accompagnés par Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro, auteur de La malédiction de la droite aux éditions Perrin.
Alors, Tabar, Baroin, Bertrand ou Pécresse?
Ou encore quelqu'un d'autre? Sait-on jamais, parce qu'on est à 2 ans et demi de l'échéance, il peut
on
passer...
On sent que son favori est ailleurs.
Non, moi je n'ai aucune préférence, je les observe chacun. Et pourquoi je dis peut-être un autre, c'est que, en fait, en politique, et c'est vrai à droite, lorsqu'il y a quelqu'un dont on sent qu'il va se dégager, même si c'est difficile, même s'il est critiqué, même s'il est clivant, il y va, il avance, il pousse tout le monde sur son terrain.
Et là, c'est pas le cas.
C'est pas le cas. C'était le cas avec Chirac.
Oui.
Et tu sais, si Chirac était critiqué, y compris dans son camp.
Oui, ça l'a été une extrémiste avec Giscard, ça l'a été avec Sarkozy.
Ça a été avec Sarkozy, ça.
Absolument, c'est clair.
Aujourd'hui, quand je dis que c'est pas le cas, on a vu aussi en 2017 qu'on avait trois haut de gamme, quand même. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. Trois très grosses pointures. Mais aucun n'était le leader naturel. Il a fallu une primaire pour les départager. Là, je pense pareil, on a trois, pour l'instant, trois personnalités de bon niveau. Catherine a raison de le souligner.
Il y en a un qui a plus d'avance que les autres?
Je pense pas.
Alors,
je pense pas. Il y a des modes successives.
D'accord.
Là, on sent bien qu'on est entré dans une séquence Baroin.
Avant, il y avait la mode Bertrand.
Voilà, la séquence Baroin, elle va monter en puissance jusqu'au municipal. Elle va être lancée de manière très active au lendemain des municipales. Est-ce qu'elle va durer jusqu'au bout? On le verra plus tard.
Il y a la question de comment les départager. Alors, on va voir la proposition de Catherine. Attendons, écoutons Carucci.
Le vrai sujet, ce n'est pas de savoir si on a un candidat crédible. Le vrai sujet, c'est de savoir comment on le sélectionne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on en a plutôt 4-5. Ce qui, vu notre corps électoral, ne nous assure pas le deuxième tour. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, il faut que l'on ait des gens de qualité, Pécresse, Baroin, Bertrand, peut-être d'autres, et qu'on se détermine sur le mode de sélection.
Alors, donc, oui. C'était sur Public Sénat, Roger Carucci. Comment ça va
mais
se passer?
Parce que Monsieur Carucci est en train de nous dire qu'il n'a pas du tout envie de recommencer une primaire qui, au lieu d'arranger les choses, a créé des divisions entre les partisans de chaque camp. Ça a été terrible.
Oui, c'est un mythe, ça.
Moi, je sais que vous êtes très pour les primaires.
Mais
ce
n'est pas la question que je
suis
très pour.
Mais si, vous
Mais pour ou contre, peu importe. On attribue l'échec à la primaire. Excusez-moi. Mais si François Fillon n'avait pas eu ses problèmes avec l'emploi fictif de Pénélope ou l'emploi, je sais pas quoi, et avec les costumes et avec je sais pas quoi, il y aurait eu aucun problème. François Fillon aurait possiblement gagné l'élection présidentielle et on aurait dit heureusement que la primaire a enfin départagé pour le permettre. Et en plus, moi, vous allez dire que c'est parce que je suis pro-primaire. Et donc, le coup d'après, vous allez dire que je suis un type primaire, probablement, Catherine Ney. Hein.
Mais ça, vous faites les demandes et les réponses tout seul, mon cher. Voilà.
Bon, oui, ben je me méfie. Mais Tabar, au moins, si Tabar est d'accord avec moi.
Mais
là,
d'accord, mais oui.
Bon, mais alors, on a le droit d'être en désaccord.
Non, mais alors, quelle est votre question, maintenant?
Eh bien, puisque vous ne voulez pas de la primaire, comment
mais
on
les partage? Je dis que ça peut poser des problèmes.
Alors, comment on les partage?
Eh bien, je n'en sais rien. Tout va être une question de désir, parce qu'il y a un moment aussi, la France se donne toujours à celui qui la désire le plus. Est-ce que Valérie Pécresse, qui sûrement vient de faire un livre intéressant, a vraiment envie d'y aller? Est-ce qu'une femme, aujourd'hui, est bien placée pour l'emporter? Est-ce qu'il y a un désir de femme chez l'électorat? Enfin, aussi, il va y avoir des sondages. Bon.
Donc, pour l'instant, Pécresse plutôt out. Ensuite...
Non, je ne dis pas ça non plus. Je dis au jour d'aujourd'hui, non. Bon, Xavier Bertrand, écoutez, on attendait une entrée de Xavier Bertrand à l'émission politique. Il a raté. C'était une émission qui était faite autour de lui. Tout le monde a parlé, sauf lui, presque.
Bertrand out.
Donc,
reste Baroin,
non, donc, pour l'instant, il est out. Il faut qu'il revienne. Reste François Baroin, qui est quand même président de l'Association des maires de France, que l'on voit à la télé, qui s'exprime avec cette voix ensorcelante qui, à la fois, vous anesthésie et vous enchante. Bon, mais pour l'instant, je ne sens pas qu'il en ait vraiment envie.
Ah, voilà. Donc, deux choses. Donc, ou ce sera Baroin, et on repassera cet extrait, Jean-Luc Arblady verra, ou ce ne sera pas Baroin, et on l'oubliera.
Il y a un autre critère qu'il faut prendre en compte. On parle du désir, ça, bien sûr, tout ça. Mais il y a aussi une question, c'est quelle sera la situation d'Emmanuel Macron au moment de l'échéance présidentielle? Parce que selon qu'il soit en forme, pas en forme, qu'il ait continué d'évoluer vers la droite, qu'il soit reparti vers la gauche...
C'est-à-dire vous laissez entendre, c'est peut-être lui le candidat de la droite qui a le plus de chance.
En tout cas, la question se pose. Non, mais est-ce qu'Emmanuel Macron va continuer à préempter les thèmes et donc l'électorat de droite? Auquel cas, l'espace, il ne sera pas forcément pour un Macron bis. Un candidat de droite qui voudra... affronter Emmanuel Macron devra se distinguer de lui.
Oui, mais vous savez, Guillaume Tabar, moi je pense que c'est pas qu'une question d'idéologie de jusqu'à quel point Macron va à droite. Je pense que ce qui est possible, c'est que les gens ont tellement pas envie de revoir un second tour Le Pen-Macron, qu'il va y avoir une vraie envie que quelqu'un d'autre surgisse et offre une alternative différente. Et là, ça peut se passer à droite, c'est même probablement aujourd'hui, on dirait que c'est à droite qu'il y a le plus de chances de se passer. Et c'est ça la chance des trois qu'on a cités, peut-être d'un autre. Ou alors ça peut se passer à gauche aussi. Il ne faut pas croire que la gauche est forcément morte.
Et si vous permettez,
on a tendance à ne pas y penser.
Mais je voudrais juste, si vous me permettez, citer un seul chiffre. Parce que pour l'instant, je pense que les sondages d'intention de vote, ils ne veulent pas dire grand-chose. Mais il y a eu un sondage, un très bon sondage IFOP dans le Figaro, je me permets de le citer, sur « Voulez-vous un second tour ?» Macron-Le Pen en 2022.
Eh ben c'est non, 60...
La réponse était non 71%, oui 28%. En 2015, une question avait été posée, la même. Voulez-vous à nouveau d'un second tour Hollande-Sarkozy, Hollande président en place, Sarkozy qui à l'époque venait de reprendre la présidence de l'UMP. Non 71%, c'est-à-dire le même chiffre, exactement le même chiffre. À l'arrivée, je vous rappelle qu'à ma connaissance, il y a eu ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy sur les lignes de départ.
Donc,
s'il n'y a ni Le Pen, ni Macron, alors là, non seulement on repasse l'exprès de Tabar, mais on lui envoie une caisse de champagne, mais dans le cas contraire, comme je suis perfide, on le repassera aussi. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Alors faites écouter cette émission par vos copains en podcast sur europe1.fr. Dites-leur aussi à vos copains que s'ils n'ont pas encore acheté le livre de Catherine Ney, Souvenir, il faut se précipiter. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Jean-Luc Arblat qui a réalisé cette émission, à Capucine Patouillet qui l'a préparée, à Justine qui l'anime.
Europe 1.